À toutes et à tous, et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G, 101.5 FM, radio-g.fr et en DAB+. En ce début d'année 2025, je vous souhaite une très très bonne année. Aujourd'hui, 8e épisode de Rencontre avec Axel Allais, joueur de poker professionnel. Bonjour Axel.
Salut Nico.
Comment ça va?
Ça va très bien, écoute, tous mes voeux à toi et à nos auditeurs auditrices.
Merci beaucoup, tous mes voeux à toi aussi. Merci d'avoir accepté de venir dans Rencontre sur Radio G aujourd'hui. Axel, pour des raisons de praticité, on se retrouve aujourd'hui dans le studio de Radio G. Mais est-ce qu'il y a un lieu où tu aurais aimé qu'on se retrouve?
Peut-être, je sais pas, un casino.
Pour me faire jouer au poker?
À Monaco, à l'autre bout du monde, je sais pas, là où je travaille, on va dire, ça aurait été marrant. Une table de poker peut-être.
Ok. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, une table de poker ou un casino?
Alors, le casino, c'est quand même assez différent, parce que c'est aussi là où il y a les jeux d'argent qui sont pas du tout mon truc.
Ouais.
Mais la table de poker, c'est bon, du coup ma carrière depuis 10 ans, donc c'est comme une part de mon identité.
Axel, comme je le disais en introduction, comme tu viens de le dire, tu es joueur de poker professionnel. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier?
Eh bien, je joue aux cartes, avec des jetons. Je joue au poker, bon, a priori, grande majorité des gens connaissent ce jeu. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire un boulot, voilà, il y a quasiment 10 ans maintenant. Donc je joue contre des adversaires. Si je suis meilleur que eux, je vais gagner de l'argent. Si je suis moins bon, je vais en perdre. Et à côté de ça, je fais aussi du coup des cours de poker, hein, ce qu'on appelle du coaching dans le milieu pour d'autres joueurs qui seraient un peu moins forts, un peu moins expérimentés. Et puis du contenu, des vidéos aussi pour des sites.
D'accord. Donc c'est assez large comme panel finalement. C'est pas juste je joue aux cartes et je gagne de l'argent.
Ça reste quand même le gros du.
Ça reste le gros du truc.
Le gros du truc, ouais.
Tu joues où? Dans des casinos? Sur internet?
Alors il y a un mix entre les deux. Moi, je venais beaucoup du online. Avant, je jouais beaucoup sur mon PC, sur internet, voilà. Parce que ça offre pas mal de liberté, hein, tu joues depuis ton salon, ton bureau. Mais de plus en plus, j'ai commencé à faire des tournois, notamment des tournois internationaux. Donc aujourd'hui, je voyage pas mal pour les tournois internationaux. Je fais quelques déplacements dans l'année. Donc l'an dernier, j'étais en Corée, en Floride, sur un bateau. Bref, il y a eu pas mal de déplacements.
Las Vegas aussi?
Las Vegas aussi, ouais, ça c'est le gros truc tous les ans où il y a les World Series of Poker. Donc un peu l'équivalent des championnats du monde, donc c'est quelque chose que j'y vais un mois par an, en gros.
Ah ouais, ouais, c'est le gros truc de
ouais,
l'année,
c'est un peu l'immanquable pour, disons, les joueurs amateurs et professionnels.
Et du coup, ça se passe comment? Il y a un classement international des joueurs de poker?
Alors, il y a des classements, mais je trouve qu'ils sont pas extrêmement intéressants, puisque ça va être en fonction du nombre de tournois que tu as joué. En fait, ça va être surtout en fonction des places que tu fais, donc des gains. Mais les gains, ça veut pas dire forcément les profits. Et puis quelqu'un qui va jouer 300 tournois dans l'année, du coup, il va forcément avoir un meilleur classement que quelqu'un qui en a joué 50. À moins que le deuxième ait fait vraiment une grosse perf. Donc, je trouve pas que les classements soient vraiment, montrent bien qui va être le meilleur joueur, etc. Parce que bon, voilà, le poker, c'est un jeu où il y a une part de chance quand même à court terme, moyen terme. Donc, c'est difficile de savoir un petit peu vraiment qui va être le ou faire partie des meilleurs joueurs.
Et toi, tu te classerais comment?
Il y aura à dire, après, au niveau français, je dirais que je suis quand même vraiment dans les 10 meilleurs, quoi. Ensuite, au niveau mondial, c'est un peu plus compliqué. Je commençais récemment à jouer des vraiment gros tournois assez prestigieux, donc qu'on appelle les tritons. C'est vraiment les tournois les plus chers et les plus prestigieux. Donc là, il y a vraiment tous les joueurs mondiaux. Donc le fait que je réussisse à me faire une place sur ces tournois, a priori, c'est quand même encourageant. Mais après, bon, est-ce que ça a vraiment un sens de se classer? Je sais pas forcément.
D'accord. Quoi les règles importantes au poker pour toi?
Les règles importantes, c'est-à-dire?
Ouais. Eh ben, qu'est-ce que tu dirais pour faire un c'est quoi les grandes règles du poker qui permettent un peu de maîtriser ce jeu?
Les compétences plutôt, du coup.
Ouais.
Je dirais que ça mobilise pas mal quand même la logique, comprendre des concepts et les appliquer dans d'autres situations. Faut être capable de synthétiser une grande capacité d'information pour justement tirer des mécaniques, etc. Beaucoup d'adaptation aussi, puisque c'est un jeu où, en fonction de ton adversaire, tu vas pouvoir passer du tout au tout. Par exemple, si t'as un adversaire qui bluffe tout le temps, bah, tu vas toujours le suivre, évidemment. Et s'il bluffe jamais, bah, tu vas toujours te coucher, puisque, il bluffe pas assez, donc tu le sais. Donc, ça demande quand même une grande capacité d'adaptation et beaucoup de remise en question aussi sur soi. Moi, tous les jours avec qui je travaille, tous les jours, on s'envoie des mains pour se demander qu'est-ce que vous auriez fait là, etc. Ouais, je dirais pas rester figé sur ses acquis. Le jeu évolue assez vite aussi, donc ouais, je dirais pas mal d'adaptation, la synthèse et la logique.
Il y a quand même une grande part de hasard dans le poker.
Ouais, tout à fait. Ouais, bah, ça dépend aussi quelle variante tu joues. Moi, je joue en tournoi où il y a encore plus de hasard. Donc ça arrive qu'en tant que joueur pro, on fasse des mois où on perde de l'argent. Ça arrive même parfois pendant plusieurs mois. En fonction de ce que tu joues, ça peut durer assez longtemps. Quand bien même à long terme, tu gagnerais de l'argent. Donc ces périodes-là sont parfois dures mentalement. C'est pour ça aussi qu'on a des coachs mentaux qui nous accompagnent souvent en tant que joueur pro. Donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt du jeu en fait. Si je joue contre toi à une soirée poker, bah tu peux me battre sur une main, 10 mains, un tournoi, une soirée. Tu peux me battre et c'est ce qui fait l'intérêt du truc. Mais si on joue 1 million de mains, c'est sûr que je vais gagner. Tu vois. Et c'est ce qui fait que bah, le jeu n'est pas mort et que les joueurs récréatifs peuvent gagner des grosses sommes, des gros tournois et tirer leur épingle du jeu à court terme. Parce que moi, je viens du monde des échecs avant. J'ai joué pendant 15 ans aux échecs en compétition avant de transitionner vers le poker.
Ok.
Et bah aux échecs, c'est toujours les meilleurs qui gagnent, quoi.
Oui. Il y a pas de surprise.
Bah, il perd des surprises, mais c'est pas un joueur moyen qui va gagner le tournoi. Ça va toujours être les maîtres, les grands maîtres, parce qu'il n'y a pas de chance. Enfin, on peut dire qu'il y a une petite part de chance, mais rien à voir avec le poker. Donc, en fait, c'est toujours les meilleurs qui vont gagner. Et si c'était ça au poker, bah, beaucoup de gens auraient abandonné. La part de chance fait partie du jeu et c'est ce qui lui donne son intérêt aussi.
Comment ça se passe au niveau financier? C'est toi qui, à chaque fois, mets ton argent pour pouvoir jouer? Ou il y a des gens qui te donnent de l'argent? Comment ça se passe?
Alors à la base oui, je jouais avec mes sous, ce qu'on appelle une bankroll au poker, c'est okay. L'argent que tu dédies ou disons ton compte poker, voilà. Donc à la base je jouais avec mon argent, mais depuis quelques années il y a d'autres joueurs de poker qui sont des investisseurs, enfin qui vont investir sur moi pour payer une partie d'inscription, puisque les tournois dont je parlais précédemment, c'est des tournois dont l'entrée sont à 15 000, 25 000, 50 000, voire 100 000 dollars. Pour inscrire, il faut payer ce montant-là. Donc, à la gagne, il y a des millions, évidemment. Et donc, ça, bien sûr, c'est bien d'avoir des gens qui investissent sur moi pour en payer tout ou partie. Et ensuite, on va se répartir les gains. C'est très courant dans le monde du poker. Et ça permet à eux de faire un investissement qui va être profitable, même si risqué, puisqu'à, on le disait, à court terme, il y a une part de chance. Mais,
oui, donc ils peuvent investir sur toi et tu peux perdre au premier tour. Où tu peux gagner.
Voilà, mais ils savent que s'ils le font, ils sont pas bêtes, c'est qu'ils considèrent que je vais gagner de l'argent sur ce tournoi. Et donc, c'est un investissement pour eux. Et moi, ça me permet de jouer des très gros tournois que j'aurais pas pu me permettre autrement.
Ok. Et tu disais aussi, tu parlais aussi de coaching mental, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré Karim Jamet, qui est coach mental, notamment spécialisé dans les joueurs de poker.
Ouais.
J'invite les auditeurs et les auditrices à réécouter l'entretien sur radio-j.fr ou Spotify. Est-ce que toi, tu as un coach mental? Ou des personnes qui t'accompagnent dans ta pratique?
Ouais, j'en ai même deux.
Ah oui.
J'en ai eu plein dans ma carrière. Il y en a un qui est porté plus sur l'hypnothérapie, etc. Et puis un coach qui entraîne des athlètes français, notamment aux Jeux Olympiques, etc. Qui suit quelques jours de poker. Je pense que c'est vraiment, à partir du moment où on est professionnel, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider à organiser votre rythme de travail, vos semaines, ou alors tout simplement évoquer des problématiques plus personnelles comme votre rapport au temps, au travail, etc. Puisque, bah, en fait, vu qu'on est à notre compte et qu'on choisit nos horaires, ça peut être un avantage comme un inconvénient.
C'est quoi les horaires d'un joueur de poker?
Alors, ça dépend. Moi qui joue en tournoi online, ça va souvent plus être le soir quand même, parce que c'est là où il y a plus de joueurs récréatifs qui vont jouer. Donc, c'est là où les rooms de poker vont faire les plus gros tournois. Donc, on va commencer à, je sais pas, entre 18h et 20h et finir à 2, 3, 4 heures du matin.
Ok.
Voilà. Après, il y a d'autres gens qui vont jouer en journée. Eux, ils vont plutôt jouer en cash game. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils arrivent sur la table, ils mettent de l'argent, ils repartent quand ils veulent. C'est un format un petit peu différent.
D'accord. Oui, là, en tournoi, tu peux pas repartir quand tu veux. Tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu perdes, quoi.
Bah, une fois que t'es inscrit, oui, ce serait dommage de partir et laisser tes jetons sur la table.
Ouais. Écoute, Axel, on va marquer une pause musicale.
Allez.
Et t'as choisi pour nous une musique que je te laisse nous présenter. Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, on écoute My Name is Carnival de Jackson C. Frank. Donc, jamais su si c'était Jackson ou Frank, son prénom ou son nom. Mais c'est un artiste assez méconnu.
Okay.
Il a fait, je crois, un album et qui a une histoire de vie assez compliquée, mais bref.
Et toi, tu l'as connu comment?
Je l'ai connu via un ami.
Ok.
Voilà. Donc, c'est juste un gars qui chante accompagné de sa guitare, mais j'aime bien en particulier cette chanson.
Eh ben, on écoute ça tout de suite et on revient juste après.
Thank you. I've seen your face in every place that I'll be going. I read your words like black hungry birds read every sowing. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus. And voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Strings of yellow tears drip from black wire fears in the meadow. And their white halos spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all, hear me call, hear my name, Carnival. Here there is no law but the arcade's penny claw hanging empty. The painted laughing smile and the turning of the style do not envy. And the small can steal the ball to touch the face of Carnival. The fat woman frowns at screaming frightened clowns that move enchanted. And the shadow lion waits outside your iron gates with one wish granted. Colors fall, throw the ball, play the game of Carnival. Without a thought of size, you come to hypnotize the danger. The world that comes apart has no single heart when life is stranger. Wheel and call, cloud dreams all, in the name of Carnival. Wheel and call, cloud dreams all, in the name of Carnival.
Rencontre sur Radio G 101.5 FM.
En compagnie d'Axel Allais, joueur de poker professionnel et qui nous a fait écouter, plutôt découvrir My Name is Carnival de Jackson C. Frank. Merci Axel pour ce partage.
Merci à toi.
Comment tu as découvert le poker ?
Alors comme je disais précédemment, je jouais aux échecs en compétition et puis je faisais mon stage de fin d'études, donc j'ai fait des études assez classiques, école de commerce, master finance avec stage à la défense, etc.
Ah oui.
Et j'avais un ami qui faisait son stage pas loin à la défense aussi dans une autre entreprise et un gars de mon école, un pote de pote que j'ai rencontré, et lui il jouait au poker donc ça m'intéressait et il venait de faire un gros gain et tout. Et moi je stagnais un petit peu aux échecs à ce moment-là, je jouais tous les week-ends, j'étais en stage la semaine donc ça me fatiguait un petit peu et puis je vivais dans une chambre de bonne de 8 mètres carrés pour mon stage.
Paris quoi.
À Paris ouais, voilà. Hein. Puis stage aussi donc pas payé. Donc ou pas beaucoup. Je m'ennuyais un petit peu le soir et du coup j'ai découvert avec ce gars-là le poker donc j'ai commencé à faire des toutes petites parties à 50 centimes, 1 euro. Il m'a un petit peu appris les fondamentaux. Puis j'ai fini mon stage de fin d'études, j'ai commencé à chercher un boulot, j'ai eu quelques pistes et j'ai trouvé un CDI au Mans en contrôle de gestion. Okay. Mais très vite je me suis rendu compte que c'était pas en fait une vie faite pour moi. Je dis assez, c'est parti, CDI, c'est parti pour 40 ans. Et en fait, le monde de l'entreprise me convenait pas. Mais bon, c'est un peu dommage de se rendre compte une fois qu'on a fait 5 ans d'études en école de commerce.
Mais t'as un bagage.
Oui, voilà. Donc à ce moment-là, je continuais à chercher un boulot quand même dans une entreprise qui me convenait un peu mieux que celle à laquelle j'étais. Et en même temps, bon, bah, je passais mes journées à étudier le poker, regarder des vidéos, jouer, etc. Puis évidemment, je me suis dit, ok, bah, si dans 6 mois, j'ai tel ou tel objectif, je deviendrai pro. Et c'est ce qui s'est passé. Et honnêtement, je pense que c'était la meilleure décision de ma vie jusqu'ici, puisque je pense que j'aurais pas été très heureux dans le système, on va dire, normal.
Et est-ce que tes études en commerce, elles t'aident à réussir au poker, à savoir, ou pas du tout?
Franchement, pas tant que ça. C'est bien d'avoir un petit bagage en maths pour le poker, mais c'est pas. Moi, j'ai plein d'élèves qui sont pas très très bons en maths et qui sont quand même forts au poker. Non, je dirais pas que ça m'a aidé tant que ça. J'ai appris des choses. Bon, comme la plupart des gens, 10 ans après, je me souviendrai pas de grand chose. Mais si c'était à refaire, je referais pas une école de commerce, non.
Tu referais quoi?
Je sais pas. Soit quelque chose d'artistique, soit je me lancerais dans le poker direct, soit quelque chose plus dans le social, je pense.
Ok. Et c'est en faisant qu'on apprend le poker, ou est-ce que t'as pris des cours?
Ouais, les deux, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais aujourd'hui, bon, on peut prendre des cours, donc du coaching, mais il y a aussi énormément de contenu, énormément de sites. Le jeu a été énormément étudié, surétudié depuis les 10 dernières années, avec des logiciels, etc. Du coup, on peut apprendre de plein de façons différentes. Même sur YouTube, il y a des super chaînes, etc. Donc, voilà. Il faut quand même jouer aussi pour se faire une expérience, pour voir comment les gens jouent et comment s'adapter.
Et toi, comment est-ce que t'en es arrivé à enseigner? Est-ce que tu enseignes aujourd'hui? Enfin, tu donnes des coachings?
Je sais plus vraiment quand ça a commencé, mais à partir du moment où tu commences à avoir un certain niveau et que t'as une relation avec d'autres joueurs et que ces joueurs veulent que tu leur apprennes ce que tu sais, soit ce que tu fais mieux qu'eux, ben, c'est quelque chose que tu peux faire, ouais.
Qu'est-ce que tu retrouves dans ce coaching? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi?
Bah, c'est toujours intéressant de transmettre, en fait, hein. Et puis, ça me permet aussi, moi, de vraiment maîtriser à fond mes sujets. Le poker est quand même un jeu beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, que ce qu'on voit dans les films, etc.
Qu'est-ce qui complexifie le poker?
Il y a des millions de situations possibles, en fait. Donc, même si on trouve des règles dans certaines situations, en fonction du nombre de ton stack, donc du nombre de jetons que t'as, de ton adversaire, de la position à table, les situations vont être donc du flop, donc les cartes qui vont arriver au flop, puis à la turn, puis à la river. Donc en gros, ça fait, si tu multiplies tout, ça fait des millions de possibilités. Et du coup, c'est ça qui rend le truc un peu complexe. Ouais.
Et c'est là-dessus que toi t'interviens, être sur des éléments particuliers, précis. Tu disais tout à l'heure, on analyse les mains, en fait.
Ouais, voilà, on va analyser les mains de mes élèves. Puis, ah, bon, moi, j'aurais joué comme ça. Ah, j'aurais pas bluff ici. Ah, ici, j'aurais call pour telle ou telle raison. Et voilà.
Et toi, pareil, t'as des gens qui te donnent.
Ça m'arrive aussi de prendre du coaching, moi aussi, avec des joueurs, pour le coup, qui sont vraiment, je pense, dans le top 10 monde, quoi.
Ouais.
Donc là, c'est vraiment quand j'ai besoin, sur un sujet spécifique, de comprendre quelque chose de très pointu.
Qu'est-ce que ça fait? Parce que dans le monde du poker, t'es connu?
En France, ouais, quand même, je dirais. À international, certains joueurs, parce que justement, jouer ces gros tournois vont me connaître, ont joué contre moi, etc. Mais après, moi, j'ai jamais rien fait pour avoir une image. J'ai très peu de réseaux sociaux, etc.
Il y a rien qui te pousse à vouloir cette image?
Je sais pas.
Parce qu'après 10 ans dans ce métier, on pourrait se dire, tiens, j'ai envie d'être un peu plus connu maintenant que tu joues des gros tournois, maintenant que...
Ouais, de plus en plus, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer, mais là où j'essaie d'accomplir ça, c'est, ouais, en jouant ces tournois les plus gros, les plus prestigieux, en espérant en remporter quelques-uns, ça me donnait une forme de notoriété, peut-être d'accomplissement. Après, j'aime pas trop aujourd'hui, voilà, comment justement on se fait connaître, ça va être à fond sur les réseaux sociaux, à faire des stories, etc. C'est pas trop mon truc, donc ça m'intéresse un peu moins de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être connu et reconnu par les meilleurs, en fait, plus que par la majorité.
Oui, donc on t'arrête dans la rue pour te dire, ah, vous êtes Axel Allais, le grand joueur de poker.
Ça peut être marrant, c'est déjà arrivé, mais...
Ah ouais, c'est déjà arrivé?
Ouais, c'est déjà arrivé, mais ça peut être marrant, mais... Voilà, ça reste un truc de niche, de toute façon, c'est pas comme si j'allais devenir... Même si je deviens le meilleur joueur du monde de poker, je ne deviendrai pas une star.
Oui.
C'est pas quelque chose qui arrivera souvent. Moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est plus être reconnu par les joueurs de poker eux-mêmes.
Et ça fait bientôt, donc t'as dit bientôt 10 ans?
Ouais.
Que tu fais ce métier, qu'est-ce que on peut te souhaiter pour l'avenir?
De la chance. Non, je sais pas, peut-être de trouver ma voie aussi après, parce que bon, là, aujourd'hui j'ai 33 ans, je pense que d'ici quelques années, peut-être 2-3 ans, j'arrêterai le poker,
Okay.
Parce que ça reste un jeu en fait hein, de cartes. Donc le jour où on en a marre, il faut vraiment arrêter, je pense, parce que ça reste cliquer sur des boutons sur son ordinateur ou jouer aux cartes quoi. Donc le jour où on en a marre, il faut arrêter. Moi je suis pas encore là. Hein, j'adore encore ce que je fais, mais c'est pas une carrière qu'on fait pendant 30 ans, je pense.
Okay.
Et puis il y a ce truc. Tu connais l'ikigai, c'est ce concept japonais, le croisement un peu entre ce pourquoi t'es doué, ce pourquoi t'es payé, ce que tu aimes faire et ce dont le monde a besoin. Et si tu trouves les quatre, t'es censé avoir voilà cet ikigai, cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Et bon bah le poker, autant sur les trois premières choses, je m'y retrouve. Autant c'est pas très utile à la société. Donc moi, je pense que quand je serai retraité du poker, on va dire, je ferai un truc qui me tient à cœur, quelque chose de social qui aide les gens de manière générale.
Est-ce que t'as souvent des gens qui te disent t'es joueur de poker, c'est vraiment, enfin ça existe, ça t'arrive encore de voir des gens qui sont un peu surpris par ton métier? Est-ce que c'est atypique?
Tout le monde est surpris. Après, il y a deux types de réactions. Vraiment, c'est très polarisé, comme on dirait au poker. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux gros pôles opposés. T'as les gens qui vont faire « Ah, mais c'est trop bien et tout, génial, etc. » qui ont vraiment trouvé ça cool. Et t'as les gens qui vont être un petit peu sur la réserve, qui vont faire « Ah bon, mais t'arrives à en faire un revenu. Ah bon, et t'es pas addict au jeu. » Enfin, qui sont vraiment... Ça, c'est en général, c'est plus la génération de nos parents où ça attendait plus, on va dire, mais ça peut être aussi des jeunes. Donc on voit que pour eux c'est n'importe quoi, c'est vraiment c'est vivre de son hobby, c'est sortir du moule, et pour d'autres c'est génial parce que c'est s'affranchir justement du monde du travail, enfin vivre de sa passion, etc. C'est vraiment deux types de réactions, je dirais.
Qu'est-ce que ça t'apporte toi le poker?
Ben déjà je disais, moi ne pas vivre dans le monde d'entreprise, choisir mes horaires de travail, n'avoir à répondre à personne, pas de forme d'autorité au-dessus de moi, ça c'est vraiment...
C'est une forme d'indépendance?
Ah ouais, c'est une grande forme d'indépendance, puis surtout de liberté, c'est-à-dire bah là si j'en ai marre et que la semaine prochaine j'ai envie de partir en Espagne en vacances, bah je le fais quoi, j'ai pas besoin de poser mes vacances à l'avance, etc. Donc ça, je dirais être son propre patron ou être à son compte, c'est toujours très très très... Enfin c'est, pour moi c'est vraiment important. Et puis c'est l'univers de la compétition quand même, donc ça me permet de me... Ouais, de me challenger un petit peu et de continuer à progresser, etc. Après, c'est des choses qu'on se dit inconvénients aussi, puisque, par exemple, là, le fait d'être son propre patron, parfois, bon, bah, t'as un peu la flemme, bon, bah, je lui fais rien pendant 3 jours, et il y a personne
pour te dire, allez,
vas-y, tu t'y mets. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'entoure d'autres joueurs, de coachs mentaux, etc.
Pour continuer à exercer. Et même si tu joues pas pendant 3 jours, bah, t'as au moins vu les mains, peut-être, de des personnes que tu coaches toi-même pour.
Ouais, voilà, ouais. Mais bon, c'est ça pour dire que oui, ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais globalement, ça m'apporte beaucoup de liberté, surtout.
Ouais, c'est surtout ça que ça t'apporte.
Ouais, et puis être payé, gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on adore, c'est quand même une grande chance. Moi, j'ai beaucoup de chance de trouver ça, et c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est vraiment une chance, je trouve.
Alors, en parallèle du poker, tu l'as dit, tu joues aussi aux échecs. T'as joué un haut niveau.
Bon niveau, pas excellent, mais ouais.
Ok, ouais, bon niveau. Tu fais aussi du théâtre d'improvisation. Est-ce que ces deux disciplines, elles t'apportent des choses dans ton métier aujourd'hui?
Entre les échecs et le poker, il y a quand même un petit pont dans, encore une fois, la compétition, travailler, revenir sur ses erreurs, synthétiser l'information. Donc oui, ça, je pense que ça m'a aidé. Le théâtre d'impro, je sais pas si ça apporte quelque chose, mais ça complète un peu le côté solitaire qu'il y a au poker. Parce qu'en fait, le poker, moi, tu joues pour toi, t'es tout seul derrière ton PC ou... Oui, tu te fais. Moi, j'ai énormément d'amis dans le monde du poker, etc. Mais encore une fois, t'es à ton compte, t'es tout seul. C'est pas un truc d'équipe, quoi. Mmh. Contrairement à des sports collectifs, etc. Et donc, dans le théâtre d'impro, ce que ça m'apporte en plus, je dirais, c'est ce côté équipe, où justement, je suis pas tout seul. On a un projet commun, un but commun, et ça me permet un petit peu de me sentir un peu plus complet à ce niveau-là.
Tu parles justement de sport. Tu viens de dire sport. Ça me fait penser. Est-ce que le poker, c'est un peu comme un sport? Il y a une routine à avoir ou est-ce que pas du tout?
Il y a un peu débat. Officiellement, c'est pas un sport, contrairement aux échecs qui sont officiellement un sport.
Ok.
Mais tu parles de routine. Enfin, de plus en plus de joueurs pro considèrent le poker comme vraiment si c'était des athlètes, quoi.
Ok.
Donc c'est vraiment la mode et en ce moment parmi les joueurs de poker, c'est la nutrition. Tout le monde a des bagues pour contrôler son sommeil. J'en ai une moi-même pour savoir comment t'as dormi, si t'étais en sommeil profond, etc. Tout ce qui est nutrition, puis la méditation, tous les livres de développement personnel, les routines du matin, etc. La plupart des joueurs sont à fond là-dedans, quoi, sur augmenter leur performance tout le temps. Donc la plupart des joueurs maintenant ont vraiment cette dynamique de vas-y, je suis comme un athlète, je prends soin de mon corps, de mon esprit, et je fais très attention à ça. Parfois, je trouve que ça va un petit peu trop loin, honnêtement, et que certaines personnes devraient mieux de se focaliser sur juste travailler leur jeu plus que faire 20 minutes de méditation par jour ou des douches glacées, des bains froids, parce que ça, c'est une grande mode aussi, ou une heure de salle de sport tous les jours. Mais en tout cas, la plupart des joueurs maintenant sont pas des gros geeks qui sont derrière leur PC à bouffer des chips, quoi.
Voilà. Ouais, c'est fini, ça c'est.
Ouais, maintenant.
On est plus sur une routine de sport, un peu e-sport, comme les joueurs d'e-sport.
Et encore e-sport, je crois. Moi, de ce que je sais, ils sont pas du tout aussi à fond là-dedans que les joueurs de poker le sont. Même les joueurs d'échecs, de ce que j'en sais. Alors, ça, je pense, que ça dépend. Mais ils s'en sont pas au niveau de vraiment à tous faire du sport. Enfin, je crois que les joueurs de poker ont vraiment de plus en plus cette hygiène de vie. Vraiment saine, et ils font très attention en tout cas.
Et toi?
Moi, je suis moins à fond là-dedans que certains joueurs. Après, moi, j'aime bien tester les trucs. Par exemple, les trucs de douche glacée et tout, moi j'ai essayé pendant un temps, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, effectivement, faire attention au sommeil, à ce que je mange, à mon rythme. Ça je fais quand même assez attention. Puis j'essaie de faire un peu de sport aussi.
C'est quand même une vie en décalé.
Ouais, faut quand même faire attention à ça. Et puis, prendre soin de son cerveau, savoir se trouver des temps de repos aussi, etc.
Alors, pour terminer cette rencontre, Axel, quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter dans ce métier ?
Je crois que je ne conseillerais pas à quelqu'un de débuter dans ce métier aujourd'hui.
Ok.
Parce que c'est devenu... le niveau de jeu a vraiment explosé, en tout cas depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire que si moi, je pouvais prendre une machine à revenir dans le temps, à remonter le temps, là, 10 ans en arrière, avec mon niveau actuel, je serais de très loin le meilleur joueur du monde. Mais de très loin. Je serais vraiment, vraiment au-dessus. Or, aujourd'hui, je ne le suis pas. Et donc, ça veut bien dire que le niveau a vraiment, vraiment augmenté au cours des dernières années, notamment avec les logiciels, etc. Donc, si quelqu'un me disait, je sais pas, quelqu'un qui a 20 ans ou qui vient de finir ses études et qui, comme moi, ne s'y retrouve pas trop et adore les jeux cérébraux et adore le poker, vous êtes censé en tant que pro, vraiment, je dirais déjà d'y aller peut-être doucement, donc souvent déjà monter les échelons vraiment petit à petit, mais surtout tester sa passion, voir s'il est vraiment passionné, parce que c'est beaucoup plus dur qu'avant, surtout pour débuter, rattraper le retard qui peut avoir sur d'autres joueurs, etc., même s'il y a beaucoup plus de ressources pour progresser. Mais je dirais que le conseil, c'est être passionné, quoi.
Vraiment être passionné pour vraiment essayer d'en faire son métier.
Ouais.
Et qu'est-ce qui fait que le niveau a augmenté? Ça, j'ai peut-être du mal à le cerner. C'est parce qu'on analyse plus ses mains, on sait plus comment réagir aux millions de possibilités.
Déjà, on a un peu plus d'expérience. Il y a le poker online qui permet de jouer beaucoup plus de mains, de l'heure, quoi. Là où en live, en casino, sur une table de poker, tu vas jouer peut-être 30 mains de l'heure parce que le croupier mélange les cartes, c'est long, etc. Là, tu peux jouer 10 tables, 12 tables en même temps online et ça va beaucoup plus vite. Donc tu vas jouer 15 fois plus, 20 fois plus demain en fait, donc tu apprends beaucoup plus vite, notamment grâce à online. Et puis encore une fois, tous les outils en fait, comme pour tous les jeux, le go, les échecs, etc., l'informatique, même l'IA aujourd'hui s'y est pas mal penché, et du coup on connaît les solutions de à peu près tous les spots, enfin on les connaît. Un ordinateur commence à dépasser l'humain au poker.
Okay.
Une solution optimale, on va dire. Donc on peut se servir de ça, il y a plein de sites, plein de logiciels qui répertorient ça, et du coup plein de gens ont fait ces analyses, et donc on comprend beaucoup beaucoup mieux le jeu qu'avant, grâce aux outils informatiques.
Et merci beaucoup Axel Allais.
Merci à toi.
Avec grand plaisir d'être venu aujourd'hui dans Rencontre sur Radio G. Et puis j'invite les auditeurs et auditrices à aller réécouter l'émission de C'est le week-end, où tu es venu nous parler de ton métier avec Karim Jamet. On parlait donc de coaching mental, on avait un peu parlé des deux et de leur relation, c'était la saison passée. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, podcaster cette émission sur radio-g.fr ou sur Spotify. On se retrouve le jeudi 23 janvier à 13h pour une nouvelle rencontre, et demain à 19h pour C'est le week-end. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine, topette.
Salut.
Radio G 101.5 FM.